Alors, sur ces termes-là, il y a juste quatre participants, en commençant par Christine Tapolé, après Christiane Adolphe, qui est... Voilà.
Merci, et merci à tous les panélistes pour ces interventions très intéressantes. J'avais plein de questions, mais je vais me concentrer sur une question qui concerne l'acronyme... Le changement, la proposition de changement d'acronyme du CREOM. Et ce que je voulais dire à mon collègue Bouchard, c'est que je crois qu'il est trop optimiste, comme ça lui arrive souvent. Quand on regarde par rapport à l'éthique, par rapport à ce qui peut se faire en éthique, quand on regarde des concepts comme le concept de personne ou le concept d'institution, on peut faire exactement les mêmes remarques. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Est-ce que ça existe pendant un instant ou bien est-ce que ça perdure à travers le temps? Il y a des débats métaphysiques, on n'est pas prêt de voir la fin de ces débats. Même chose pour les institutions. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut faire que de la métaphysique? J'aime bien la métaphysique, la psychologie dans le fond. Mais non, je ne crois pas, ce ne serait pas la bonne... conclusion. Il faudrait plutôt faire, je crois, de l'éthique fondamentale, de la méta-éthique, faire des choses il y a ensuite des questions plus délicates, la question de savoir s'il faut un dialogue entre des philosophes de la biologie, des biologistes et puis des éthiciens, ou bien si c'est peut-être des concepts un petit peu différents. Le concept de personne qu'on utilise en éthique, ce n'est pas le concept qui va intéresser peut-être même le métaphysicien. Peut-être que ce sont des concepts un peu différents. Là, il y a des questions plus difficiles, mais je crois que ça n'a jamais arrêté l'éthique que de savoir qu'il y a ces débats compliqués dont il faut tenir compte, évidemment. Mais, donc c'est une sorte de réduction à l'absurde de ce que tu proposais.
Mais si la métaéthique est la réduction à l'absurde de mon commentaire, je veux dire, je peux comme... Je me sens mal, c'est pas ce que j'espérais faire, mais
attends.
C'était une blague.
Je vous propose de regrouper, comme tout à l'heure, trois interventions pour répondre plus efficacement. Est-ce que ça vous convient?
Oui.
Donc, c'est un autre, il y a quelqu'un en fond.
Justine m'a en partie volé ma question, mais je vais la reformuler simplement parce que ça pose aussi une question fondamentale, c'est-à-dire ce dont Frédéric a parlé, il me semble que ça soulève des enjeux fondamentaux pour le CREOOM, qui est un centre interdisciplinaire. Donc, la façon dont je présente le problème, c'est avec Frédéric, nous, avec le professeur Bouchard, pardon, nous avons animé pendant longtemps un séminaire, enfin pendant deux ans, un séminaire sur le développement durable. Et maintenant, je donne un cours sur la philosophie politique de l'environnement et je le donne seul. Auparavant, j'avais l'impression d'avoir deux jambes, d'être sur mes deux jambes. Et maintenant, j'ai l'impression d'être unijambiste. Et j'ai l'impression que ce qu'il propose, ce que je voudrais défendre à ma manière, c'est une forme de plaidoyer pour un unijambisme philosophique. Ce que ça signifie, en gros, c'est que ce qu'il prétend, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il y aurait une discipline qui serait sous-jacente, c'est-à-dire qu'il faudrait régler un certain type de problème, avant de passer à d'autres questions ou d'autres enjeux. Moi, la façon dont je le vois, c'est plutôt une forme de déflationnisme. C'est-à-dire, c'est lorsque nous avons des prétentions dans un domaine moral ou un domaine d'application de la morale, alors il y a nécessairement des obstacles qui sont liés, par exemple, à un type de connaissance ou des enjeux épistémologiques. Et ça peut provenir aussi des autres disciplines, comme par exemple, lorsqu'on est en philosophie politique ou on s'intéresse à, je ne sais pas moi, l'espace urbain, eh bien, il est évident qu'on va avoir des informations de la part des urbanistes qui vont modifier la perspective qui est la nôtre et vice-versa. Donc je le vois plutôt comme, disons, quelque chose qui contraint le discours plutôt que quelque chose qui fait en sorte que, disons, de manière fondamentale, nous devrions accorder un ordre de priorité à l'un sur l'autre. En revanche, ce que ça signifie aussi, c'est que lorsque nous sommes dans une perspective d'interdisciplinarité, alors il y a nécessité de respecter la nôtre. C'est-à-dire, la pluridisciplinarité se vérifie dans le fait que, justement, nous avons chacun nos modes disciplinaires propres, mais nous sommes en interaction avec d'autres personnes plutôt qu'une personne qui tenterait, disons, de résoudre l'ensemble des problèmes à l'intérieur de sa propre discipline. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu pour le CREOOM aussi, et puis parfois une certaine mécompréhension de ce que c'est que l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est comme si tous les discours devaient être inclusifs, alors qu'en fait, ils sont véritablement en dialogue, ils se limitent mutuellement dans leurs prétentions.
Est-ce que je peux revenir sur les deux, puisque c'est le même thème?
Juste, je voulais demander si la troisième portait sur le même sujet. Oui. Alors, comme ça, on pourrait faire une pierre plusieurs fois. Allons-y.
Oui, bien, imagine. Donc, Christian et Christine donc, ont déjà dit un peu ce que je voulais dire, donc je vais être plus bref. je pense qu'effectivement, bon, j'aime beaucoup la provocation, mais c'est vrai que si on acceptait ta proposition, bon, je pense que ça serait un peu la fin. En tout cas, on mettrait en parenthèse l'éthique normative, parce qu'on devrait donc régler un certain nombre de questions ontologiques et épistémiques. Puis ça serait vraiment mettre l'éthique normative en parenthèse. Un exemple de ça, par exemple, bon, ceux qui font de l'éthique normative, donc, s'évertuent à construire des théories normatives, des arguments, ainsi de suite. Il y a tout un champ de la métaéthique, l'épistémologie morale, où il y a des débats très fondamentaux là, sur bon, le statut des jugements moraux, ainsi de suite. Puis, s'il fallait attendre la résolution de ces débats-là, on ne pourrait jamais faire de réflexion proprement normative. Hein. Le débat entre les réalistes, les constructivistes, les relativistes, tout ça, c'est une conversation qui est nécessaire, mais je ne vois pas quand elle va s'achever. Je ne pense pas qu'elle va s'achever. Mais on ne s'est pas empêché de faire des éthiques normatives pour autant. On a développé une épistémologie et une méthodologie plus modeste, souvent cohérentiste, collectivement-textualiste, ainsi de suite, pour continuer à avancer des arguments normatifs. Mais je suis d'accord avec toi, il reste qu'il y a des présupposés ontologiques, épistémiques, puis c'est le travail de personnes comme toi et d'autres qui font de la métaphysique, ainsi de suite, de venir contester ces postulats qui sont posés. Donc là, je vois le travail collaboratif dont Christian parlait, mais ça ne signifie pas pour autant que ces théories normatives en question sont toutes aussi faibles l'une que l'autre ou qui n'ont pas de valeur parce qu'il y a encore des débats qui restent en suspens. Je pense qu'on peut continuer à avancer. Je pense qu'il y a un champ propre pour la réflexion sur l'agir, hein, qui n'est pas la même chose que la réflexion qui cherche à décrire la nature.
C'est très cohérent, comme même si les conclusions sont différentes que vous tirez de votre analyse. Mais je veux souligner une chose. D'une part, je parlais d'éthique environnementale et pas de l'éthique en général. Donc, je pense que l'éthique environnementale pose un problème particulier à cause des entités dont elle traite. Donc, il y a encore de la place pour l'éthique normative, mais pour moi, l'erreur, c'est de croire que... En fait, l'espèce de... Pardonnez, là, je suis externe à l'éthique, là, donc je veux juste vous dire comment moi, je vois ce qui s'est fait. L'éthique environnementale, au début, ridiculisée par les éthiciens old school, parce que c'est l'éthique appliquée, puis finalement, on prend nos théories éthiques, on saupoudre un peu d'environnement dessus, et voilà, on a une éthique environnementale. D'accord? Puis il y avait une espèce de mépris léger. Puis là, je dis vraiment juste de l'extérieur, c'est peut-être injuste de ma part, là. Mais l'espèce de mépris léger envers l'éthique environnementale, parce que finalement, ce n'est qu'une application de l'éthique normative. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, l'éthique environnementale n'est pas une éthique appliquée. Donc, c'est pas juste en disant que c'est juste une nouvelle application qu'on règle la question, parce que c'est des entités qui sont radicalement différentes de nos intuitions habituelles. Et là, c'est ici où que je veux revenir à la question des personnes. C'est que les personnes, même s'il y a des profonds désaccords sur ce qu'est une personne, étrangement, si je vous demande si ma fille est une personne, il va y avoir un consensus large, même si on ne s'accorde pas sur comment. D'accord? Et, fais attention Christine, là j'ai dit ma fille. Si je te demandais Christian, là la boutade. OK? Mais donc, je dirais qu'il y a une espèce de consensus large par rapport à ce vers quoi ça réfère. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que l'éthique environnementale, je ne dis pas qu'il faut attendre que ce soit réglé avant de faire une éthique environnementale. Ce que je vous encourage à faire, en quelque sorte, c'est de ne pas avoir peur de vous éloigner radicalement de l'éthique normative habituelle réservée aux personnes. Parce que ce sont des entités pour lesquelles nos intuitions sont complètement inadaptées. Et c'était plus ça la question. Donc, ce n'est pas tant de dire « il faut faire la philosophie des sciences, parce que tous les problèmes des philosophies des sciences soient réglés, ensuite on fera l'éthique environnementale ». C'est dire que la philosophie des sciences, en quelque sorte, même si c'est comme ça que je le présentais, là, mais c'est dire notre réflexion épistémologique nous révèle qu'on traite avec des entités qui sont radicalement différentes de celles traitées par l'éthique normative habituelle. Et que je ne crois pas qu'un petit peu d'ajustement ici et là de l'éthique normative, telle qu'on l'a pratiquée jusqu'ici, permettra de référer à ces entités-là de manière appropriée ou de manière qui va sembler convenable à ceux qui s'intéressent au bien et au mal de manière beaucoup plus proximale ou aux questions de responsabilité de manière beaucoup plus proximale par rapport à nos agir interactions humaines.
Merci beaucoup. Moi, c'est une question aussi qui est dirigée vers le réponses un peu.
Je pars dans 7 minutes, hein, donc après ça, vous avez.
Non, mais
peut-être que Pierre-Olivier pourra rebondir. Donc, c'est en ce qui concerne ton diagnostic, je trouve que ton diagnostic est un peu sévère à l'égard de l'éthique environnementale. Et peut-être, Peut-être en partie erroné, parce qu'il y a différentes manières de formuler un diagnostic assez sévère à l'égard de l'éthique environnementale. Je suis d'accord avec toi qu'il faut éviter le genre d'éthique appliquée où on prend notre philosophe préféré et on le met dans un domaine. C'est une mauvaise manière de faire. Mais par exemple, quelqu'un qui est très critique à l'égard du domaine en général de l'éthique environnementale, c'est Arnaud de Chalid. Il a publié un article il y a quelques années de cela dans lequel il fait un survol de ce qui s'est fait en éthique environnementale au cours des 30 dernières années. Et il est très sévère, tout comme toi, mais il est sévère parce qu'il nous dit en éthique environnementale, il se fait trop de débats métaphysicaux et épistémologiques. On se concentre trop sur ces enjeux-là. Et de Chalit nous dit ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est une philosophie politique de l'environnement ou une théorie de la justice de l'environnement. Là, ce qui revient peut-être à essayer de formuler une espèce de diligentisme épistémologique comme Christian. Je pensais jamais dire ça aujourd'hui. Ça fait peut-être face à ce genre de problème-là. Mais là, il nous dit, ça prend une théorie de la justice qui, par exemple, puisse nous fournir des principes de justice sociale, qui soit éclairant, par exemple, qui nous fournisse une base de justification publique pour parler dans un langage wardien, si j'étais wardien. Mais dans un monde possible, on pourrait imaginer que je suis wardien, donc c'est un peu ce que je te répondrais. Et donc, on pourrait en fait faire l'argument selon lequel si nous avons besoin d'une théorie de la justice environnementale, pour faire une telle théorie de la justice, ben, il faut justement voyager léger métaphysiquement.
Oui.
Moi, je lis la littérature récente sur la justice climatique avec Simon Kinney, Stephen Gardiner, et on est débarrassé d'une certaine manière dans cette littérature-là de l'angoisse métaphysique. Ce qui me plaît, là, parce que, contrairement à Christine, j'aime pas tellement l'angoisse métaphysique. Mais il est question dans cette littérature-là de problèmes d'action collective, d'externalité négative, de taux d'actualisation des préférences, ce genre de choses-là. Et ça m'apparaît, en fait, extrêmement fécond.
Je suis totalement d'accord avec toi, mais pour moi, ça, c'est pas une éthique environnementale. C'est poser le problème. En fait, c'est que si on se demande si on s'intéresse, disons, aux conséquences de la déforestation sur des populations subsahariennes, par exemple, bien, à la limite, c'est s'intéresser au pourquoi il y a eu la déforestation, c'est dans les moyens. Si c'était causé par une chainsaw ou si c'était causé par une tempête, oui, ça demande une manipulation puis une intervention différente. Mais à la limite, on pourrait ne rien savoir, mais je suis d'accord que c'est métaphysiquement léger. C'est juste que je ne conçois pas en quoi... En fait, appeler ça une éthique environnementale, pour moi, c'est galvauder une question de philosophie politique ou de question de justice qui, à la limite, et les résultats vont être les mêmes. C'est juste que là, on change quelles sont les causes de l'injustice. Mais la question de la justice, en quelque sorte, elle est orthogonale. À la cause proximale qui est ici changement climatique ou un tracteur ou ainsi de suite. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, mais disons que je suis mal à l'aise d'appeler ça de l'éthique environnementale. Pour moi, c'est une question de philosophie politique ou d'éthique normative qui est dans un contexte où le moyen d'injustice ici est un moyen environnemental qui implique des chaînes causales plus complexes, certes, mais là, ici, c'est une question épistémique qui se règle. On peut voir à quel point vous mettre de tel type d'essence, ça a un impact sur la déforestation. Et là, c'est une question de justice ici. Pour moi, ce n'est pas une question environnementale de manière intrinsèque, pour utiliser un mot avec lequel je suis profondément inconfortable. Mais c'est pour moi, c'est pas de l'éthique environnementale, à proprement dit. Ou se l'est, mais comme un raccourci ici sémantique. Je m'excuse. Je dois y aller.
Merci beaucoup.
Je dois aller m'occuper de ma fille, hein, donc c'est...
Bon. Sinon, on peut suffire que c'est une...
Nous avons encore 10-15 minutes, donc si Antoine ou Rava, vous voulez reprendre aussi cette question, ce commentaire. Allez-y.
Qui en premier?
Ok. Toi.
Ok. J'aimerais peut-être réagir un petit peu à ce que Pierre-Yves vient de dire, et cette fois en étant plutôt d'accord avec ce que Frédéric disait qu'en réaction. Ce que tu fais valoir, Pierre-Yves, c'est une préoccupation qu'on voit souvent et qui est légitime à un certain degré, c'est-à-dire de dire, ben, à un moment donné, c'est que l'éthique de l'environnement, il faut qu'elle soit pragmatique, puis il faut qu'elle développe des solutions qui vont régler les problèmes réels dans un laps de temps qui est requis par l'urgence de la situation. Donc ça, c'est une préoccupation qui est, d'après moi, vraiment importante. Sauf que, en utilisant cet argument-là contre les approches en éthique d'environnement qui vont creuser plus les enjeux épistémiques et méta-éthiques, on présuppose que cette approche-là en éthique d'environnement ne peut pas être féconde en outils politico-juridiques pour régler les questions concrètes. Et ça, c'est une question empirique, en fait, parce que ce qu'il faut faire, c'est aller voir dans le monde qu'est-ce qui réalise, qu'est-ce qui donne lieu à des politiques. Et quand même, deux exemples où les réflexions plus sur la valeur intrinsèque de la nature qui implique des préoccupations métaphysiques ont eu des débouchés politico-juridiques. Mais juste avant les deux exemples, c'est que même on peut remonter à la motivation, ce qui a déclenché cette réflexion-là. C'est un article de Christopher Stone, « Should Trees Have Standing? » où il avance l'option qu'on pourrait accorder des droits à la nature et que ce serait un outil juridique utile pour pas mal plus efficace qu'il y a bien d'autres outils politiques pour résoudre nos problèmes environnementaux. Et Christopher Stone, lui-même, dans l'article, dit « Mais avant qu'on soit capable de faire ça, il y a un travail métaphysique à faire pour caractériser qu'est-ce qu'une entité doit posséder comme caractéristique pour pouvoir être un objet de droit. » Donc, le travail sur la valeur intrinsèque et le travail métaphysique que ça requiert peut déboucher à des outils politico-juridiques dans cette perspective-là. Et il y a deux pays d'Amérique latine, qui ont inclus, je crois que c'est dans leur constitution, une déclaration des droits de la Pachamama, qui est mère nature, dans je cherche l'autre mot pour Inca, parce que c'est pas comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, les... est-ce que quelqu'un le sait?
Les Mayas?
Non.
Les Quechua,
voilà. Et dans ces déclarations-là, ben, il y a clairement une expression juridique de l'idée de valeur intrinsèque de la nature. Et pour que cette idée-là ait un certain mordant juridique, ben, il faut être capable de la baliser, c'est-à-dire de dire, mais c'est quoi nuire à la nature? Puisque ensuite, des gens vont poursuivre possiblement des entreprises au nom de la nature, parce qu'il y a quelqu'un qui a porté un préjudice à la nature. Ça nous prend une notion de préjudice à la nature.
Ravat, vous voulez aussi réagir?
Oui. Il y a un concept, je pense, qui a été importé en éthique, qui pollue un peu tout l'univers de l'éthique, c'est l'idée de l'application. C'est-à-dire faire de l'éthique appliquée à l'environnement, à la bioéthique, ainsi de suite. On connaît les ravages de cette conception de l'action, que les ingénieurs, c'est un peu ça, l'ingénierie, c'est de la physique appliquée. On connaît tous les problèmes que ça engendre dans à la fois dans le système universitaire, l'organisation de la connaissance et l'enseignement, ainsi de suite, mais aussi dans la pratique. Aujourd'hui, on sait quand même une action, c'est pas juste de la connaissance appliquée. Ça, il faut. Donc, une action sur l'environnement, c'est pas juste de l'éthique appliquée à l'environnement. Je peux très très bien faire appel à des connaissances en esthétique, à des sensibilités esthétiques, et régler des problèmes environnementaux qu'on qualifie peut-être des fois par de problèmes éthiques. Donc, cette question de l'application, à mon sens, de toute façon, nous, en aménagement, on la rejette presque totalement parce qu'elle est vraiment dépassée. On ne parle plus d'appliquer des connaissances, on parle de situer des connaissances, de mettre en œuvre des connaissances dans des situations concrètes. Et aussi bien l'éthique que les concepts de la physique, que les concepts de l'esthétique ou de l'art peuvent être mis en situation pour éclairer une situation. Donc la connaissance, qu'elle soit environnementale ou éthique ou quoi que ce soit, elle est là pour éclairer et rendre l'action un peu plus intelligible, un peu plus intéressante. Donc à mon sens, ce concept, ce schéma d'Auguste Comte, finalement, là qu'on a importé des sciences de la nature, du positivisme, des écoles d'ingénieurs, pour en faire des sciences appliquées partout. Aujourd'hui, l'éducation, c'est devenu la psychologie appliquée. l'agriculture, c'est devenu la biologie appliquée. Vous voyez les torts, ça peut faire ce concept d'application. À mon sens, il faut sortir de cette idée d'éthique fondamentale, donc qui correspond à science fondamentale dans le système d'Auguste Comte, et puis éthique appliquée qui correspond à science appliquée. C'est complètement aberrant. Aujourd'hui, on sait que faire une action, elle est tellement complexe, l'action, là, que ça convoque tellement de connaissances et de savoirs, et des fois des savoirs qui ne sont même pas transcrits sur des livres. C'est des savoirs tacites, c'est des savoirs indigènes, c'est des savoirs. Donc, c'est à mon sens, là, c'est pour ça que je ne me reconnais pas beaucoup dans l'axe éthique-environnemental, ni de mettre l'architecture ou l'urbanisme dans l'axe éthique de l'environnement ou toutes sortes d'éthique appliquée. À mon sens, c'est extrêmement réducteur.
D'accord. Il y avait Christine, et s'il y avait quelqu'un d'autre qui n'a pas encore participé, Peter, vas-y.
J'aimerais essayer de faire un pont entre Rabat et Relier. J'ai beaucoup aimé l'emphase que tu mettais dans ta présentation sur l'importance des habitudes dans un contexte éthique. Là, je veux provoquer Pierre-Olivier un peu par rapport à sa présentation. Alors, il y a deux thèmes de changement d'habitude dans ton propos qui, pour moi, ressortaient beaucoup. Le premier, c'est, là, on est en campagne électorale aux États-Unis, ce qu'un politicien appellerait les gains d'efficience. C'est vrai, il y a beaucoup de pertes d'énergie, par exemple, dans le secteur industriel, agricole, etc., qu'on pourrait éviter si, et ça c'est le deuxième volet, si les gens étaient mieux informés. Si on arrivait à faire ces deux choses-là, alors on pourrait déjà réduire de manière importante notre consommation énergétique. La provocation que je veux te proposer, c'est que pour moi, ça, c'est un changement d'habitude qui est relativement mince ou modeste. Et je ne crois pas qu'à long terme ou transposé à la population mondiale, ce type de changement d'habitude suffira pour arriver si on l'appelle éthique environnementale, non, à une relation entre nous et notre environnement qui est soutenable. Alors, autrement dit, il faudra des changements d'habitude plus profonds. Et là, la question s'adresse un peu à tout le monde. Alors, comment est-ce que pas seulement la politique dans le secteur énergétique, mais la politique générale peut promouvoir ces changements d'habitude plus profonds?
C'est pas juste de l'information, il faut qu'il y ait de l'information, l'éducation, mais aussi des incitatifs à la fois sociaux et économiques pour changer les habitudes. Donc, comme je disais, il y a des subventions qui font en sorte que le signal de prix n'est pas là, qui font en sorte que une bouteille, 2 litres de Coca-Cola vont coûter 2 $ et de l'eau va coûter plus cher que ça. Donc les gens boivent énormément de sucre, de gras, et alors que ça, le coût de production est largement subventionné. Donc si on enlevait ces subventions, le système de prix ferait en sorte qu'on pourrait réaligner et changer les habitudes. Au niveau du transport, c'est la même chose. Ce que je dis, c'est que il faudrait faire ça, parce que si on ne fait, je ne dis pas qu'on peut résoudre tous les problèmes à travers ça, mais ça, on peut le faire à l'intérieur de notre cadre actuel. Si on ne fait pas cette première marche et qu'on dit ce n'est pas suffisant, il faut monter tout l'escalier, mais on ne monte même pas les 3 premières marches à l'intérieur du cadre, moi je dis peut-être vous avez raison, peut-être que ça ne va pas être suffisant et qu'il faut des changements bien plus radicaux pour vraiment changer. Mais si on ne fait pas ce qui est le plus facile et qu'on ne fait rien en attendant de faire les changements radicaux, eh bien, je dis, on ne va jamais faire ces changements radicaux, parce que quelles sont les alternatives radicales qu'on peut faire? C'est quoi le modèle? Souvent, j'ai des collègues à HEC avec qui je suis un peu plus en contact sur la décroissance, et ils me disent, le système capitaliste ne fonctionne pas, il faut faire un changement radical. Je dis, d'accord, oui, quoi? ah mais on n'a pas encore trouvé exactement qu'est-ce qu'il faut faire, on est en réflexion. Alors moi je dis, ben d'accord, je serai prêt à vous soutenir, mais si vous êtes en réflexion, moi je veux agir aujourd'hui et je veux faire les premiers pas qui vont au moins commencer à nous amener dans la bonne direction. Et quand on aura trouvé collectivement quels sont les éléments radicaux à amener, eh ben on sera dans une meilleure position pour faire le saut. Mais on va déjà commencer aujourd'hui, à l'intérieur de notre système de valeurs, à faire des changements qui sont cohérents. Parce qu'actuellement, il y a tellement d'incohérences dans notre système. L'incohérence que j'ai avec mon histoire de sac de feuilles, c'est qu'on émet des règlements qu'on ne met pas en application. Si on n'est même pas pour nos feuilles mortes, on n'est même pas capable d'être cohérent dans les règles qu'on se donne au niveau municipal, ben je me dis, on a un problème qui est tellement minuscule qu'on n'arrive pas à régler, alors qu'on ne dise pas qu'il faut changer radicalement et que ça va réduire. Parce que
juste pour peut-être un peu plus précis, une taxe sur le carbone qui augmenterait radicalement les prix, par exemple, des billets d'avion. Ouais. Alors ça changerait une conférence comme celle-ci, on aurait probablement plus d'espace, mais on serait dans une salle de vidéoconférence. Mais ça, alors c'est quand même ça va au-delà des ajustements.
Non. La taxe sur le carbone. Avant une taxe sur le carbone, on pourrait simplement cesser toutes des aides fiscales à l'industrie pétrolière et gazière. Il y a énormément d'aides fiscales sur donc on pourrait faire ça. Mais même une taxe sur le carbone, oui, ça serait des ajustements, mais à l'intérieur de la théorie économique actuelle, une taxe sur le carbone est tout à fait compatible. Je veux dire, il n'y a pas de changement de valeur. C'est un ajustement qu'on n'arrive pas à faire parce que ça brutaliserait les habitudes de consommation qu'on a. Et c'est en fait, c'est moi ce qu'on a évoqué, la participation citoyenne. En fait, c'est le citoyen qui est froissé, qui est tellement froissé à l'idée d'une taxe sur le carbone, donc ça brusquerait ses habitudes, que c'est le citoyen qui résiste de voter pour des partis politiques qui mettent ça de l'avant. Donc, à mon avis, le problème, c'est que pour brusquer les habitudes, il faut qu'il y ait une acceptation citoyenne. Et le problème se trouve aussi du côté des citoyens qui refusent de se faire brusquer dans leurs habitudes, même si ce changement d'habitude serait ultimement bénéfique pour eux, parce qu'au niveau de l'avion, c'est très marginal. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'avion, évidemment, quand on prend pour un passager, c'est énorme, mais dans les émissions globales, le secteur de l'avion est éminemment mineur. Donc les grosses conséquences d'une taxe sur le carbone, c'est que les fraises de Californie seraient trois fois plus chères, parce qu'elles arrivent en camion de Californie, et ça serait trois fois plus cher de fait. Est-ce que ça serait un changement radical dans nos habitudes de payer trois fois plus cher les fraises de Californie? Je pense que non.
Vous n'avez pas d'autres commentaires, réflexions, remarques, questions? Non? Bon, ben... Ah, une! C'est notre balcon. Très bien. Je ne voyais pas, désolé.
Il y a un certain nombre de principes de raisonnement que vous affirmez comme ça, comme si c'était des vérités d'évidence, mais qui ne semblent pas l'être. Par exemple, vous dites, si on ne fait pas le moins, on ne fera pas le plus. Pourquoi? On peut considérer, par exemple, que ce n'est pas très important de ramasser les feuilles, et puis s'il y a un grand problème, alors à ce moment-là, on réagira.
Non, je suis d'accord. Je ne dis pas que... le problème que j'ai avec un changement radical dans nos approches à l'environnement, c'est que je ne vois pas la proposition qui est de l'avant sur comment on peut... Mais d'une part, qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon radicalement différente, mais surtout, comment y arriver, étant donné la population dans laquelle nous vivons. Et ce que moi, ma motivation personnelle, c'est d'agir sur les problèmes en essayant d'optimiser les impacts à court terme. Mais je suis tout à fait ouvert à des changements radicaux, mais ce que je veux, c'est aussi le plan de match qui va faire en sorte que mes voisins et mes amis, ma famille et mes concitoyens me suivent. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de résistance. Les gens habitent en banlieue, ils aiment leur centre commercial, ils aiment prendre leur deuxième voiture pour aller à l'aréna voir leur enfant jouer au hockey. Ils aiment tout ça. Alors, un changement radical, oui. Maintenant, c'est quoi le plan de match qui va nous faire convaincre cette population qui aime son mode de vie actuel de changer? Je pense qu'il y a des petits pas qu'on peut faire qui peuvent nous amener vers une situation meilleure, qui n'exclut pas qu'un jour, on ait la solution radicale. Mais je me dis, agissons sur les leviers qui sont accessibles et éventuellement, si ça n'est pas suffisant, allons vers des solutions plus radicales. C'est tout.
Merci.
Merci beaucoup. Ah,
peut-être juste un petit truc rapide sur la question de la décroissance. Je suis vraiment pas un spécialiste de cette question-là. Je sais qu'il y a des gens dans la salle que je connais pour être mieux au courant que moi de ces questions-là et des enjeux, mais je connais pas vos collègues au HEC, mais oui, il me semble qu'il y a quand même des gens qui travaillent la question de la décroissance de manière sérieuse et qui proposent des plans de match. C'est pas parce que certains apôtres de la décroissance n'ont pas de plan de match qu'il n'y a pas ailleurs des gens qui ont un plan de match. Et un plan qui m'a paru assez plausible quand, dans ma faible lecture de littérature sur cette question, c'est la proposition de favoriser le plus possible une économie des coopératives plutôt qu'une économie des corporations. Les corporations ont comme de manière inhérente, un principe inhérent de croissance. Pour survivre, elles doivent croître. Et croître, pour le dirigeant de l'entreprise, ben, c'est intéressant parce qu'il fait plus d'argent. Tandis que si on a une coopérative où les revenus sont toujours répartis équitablement entre tous les emplois, tous les gens qui y travaillent, tous les membres, croissance implique nécessairement engager plus, réunir plus de membres. Et donc, chaque personne ne se retrouvera pas plus riche en bout de ligne si l'entreprise croît. Donc, il y a moins un principe inhérent de croissance. C'est ce que j'avais compris de l'affaire. Peut-être qu'il y a d'autres suggestions qui peuvent être faites, mais il me semble qu'il faut pas trop vite juste dire « Ah ouais, les apôtres de la décroissance, ils font juste dire des grandes phrases, mais ils n'ont pas de projet concret à proposer. »
Il est 16 heures, donc je vous propose de continuer le débat autour de la tasse de café. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous avez un rendez-vous dans 30 minutes pour la séance consacrée à l'axe éthique et économie. Et puis, bonne suite du colloque.